Le choix d'une thématique d'étude de ces champs chronologiques et géographiques relève, n'en doutons pas, et je crois que vous en êtes convaincu également, de l'association de plusieurs facteurs en grande partie affectifs. En l'occurrence, pour ma part, effectivement, il s'agit de l'association d'abord d'une passion ancienne pour un objet, pour l'objet monétaire. Comme d'autres vont trouver passionnant qui le timbre, qui la vieille voiture ou je ne sais quel autre objet, moi il s'agit de l'objet monétaire. Alors, pas vous raconter ma vie, comment enfant, en trouvant une vieille pièce de monnaie dans un jardin où j'ai vu que le souverain qui y figurait avait le même âge que moi à l'époque, il s'est passé quelque chose. Et effectivement, c'est un peu l'histoire d'ailleurs. Bon, passion pour un objet qu'on touche et qui fait voyager dans l'histoire. À ce titre, c'est vrai qu'il n'y a pas, j'allais dire, moyen, objet plus facile à tenir entre les mains pour voyager dans le temps. Vous ne pouvez pas faire la même chose avec les timbres. Vous voyagez loin, mais dans le temps, c'est assez limité. Je parle pour des domaines de collection. Maintenant, pour d'autres objets historiques, avec la monnaie, voilà, touchez facilement 20 siècles d'histoire. Et ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Deuxième aspect, une préférence manifeste pour l'histoire moderne. Une histoire moderne que j'ai découverte ici. Quand je suis entré pour faire mes études à l'université en 1995, à l'origine, je voulais faire de l'histoire médiévale. La passion, moi, depuis l'enfance, c'était le Moyen-Âge. Et puis, Jean-Marc m'a fait découvrir l'histoire moderne. Troisième aspect, l'attachement à une région. En l'occurrence, la Normandie, Basse-Normandie surtout, comme natif. Hein, je crois que ces aspects-là de cœur sont importants aussi pour définir un sujet d'étude. Dès la L1, on en avait un peu parlé, l'idée d'un, après le premier cycle universitaire, de travailler un jour sur la monnaie physique à l'époque moderne, avec comme laboratoire la Normandie. Ça a germé assez tôt. Alors peut-être faut-il, avant de poursuivre, que je rappelle brièvement la définition de la monnaie. Ce que j'entends quand je vous parle aujourd'hui par monnaie, c'est-à-dire de la monnaie physique, de la monnaie réelle, puisque c'est celle-ci qui m'intéresse, à l'époque moderne. Car je me suis rendu compte lors de mes recherches que si la monnaie de compte est à peu près maîtrisée par les historiens, l'objet monétaire, lui, la monnaie réelle, ne l'est point. Sans doute par manque de formation en économie, sans doute aussi par une méconnaissance totale d'une des sciences auxiliaires de l'histoire dont on reparlera dans mon exposé, qui est la numismatique. Alors, l'écueil classique est de confondre monnaie et moyen de paiement. Je pars à l'origine du problème. Rappelons que la monnaie, à l'époque moderne, a trois caractères fondamentaux qui la définissent. Et il faut qu'elle ait les trois pour être définie, à savoir... C'est une mesure ou un étalon de la valeur. C'est de surcroît un moyen d'échange et c'est enfin une réserve de valeur. Complétant et précisant cela, il fallait qu'une autorité politique reconnue en soit émettrice. Et je remonte à cela... pour rappeler cela au sens de la monnaie en grec, hein, nomisma, qui vient de nomos, la loi, c'est la loi qui fait la monnaie. Ainsi, les moyens de paiement privés, comme la lettre de change, par exemple, ne sont pas, j'insiste, de la monnaie. La monnaie, à l'époque moderne, est ainsi intrinsèquement un objet de richesse. C'est-à-dire qu'elle contient, et c'est pour cela qu'elle est métallique, essentiellement, sa valeur. Mais métallique en métaux précieux, de façon à pouvoir condenser une valeur importante dans un tout petit objet, à savoir, pour l'époque qui nous intéresse, l'or et l'argent. Et parce qu'elle est intrinsèquement précieuse, elle circule au-delà des frontières d'émission. Peu importe l'empreinte de l'autorité qui l'a frappée, la monnaie circule universellement au-delà des territoires parce que elle est universellement précieuse. La monnaie à l'effigie du roi de France peut circuler sans aucun problème en Angleterre et inversement. Ces rois peuvent se détester, se faire la guerre, être en opposition frontale. Ça n'est pas un problème. L'essentiel, c'est que ce soit ici un morceau d'argent, c'est là aussi un morceau d'argent, ici c'est un morceau d'or, et là aussi c'est un morceau d'or. Vous allez voir en quoi ces propos liminaires sont importants. Cependant, à notre époque, et à partir du XVIIIe siècle, elle peut également être fiduciaire, cette monnaie, c'est-à-dire représenter une valeur que l'autorité émettrice lui garantit, une valeur gagée sur quelque chose. On parle en l'occurrence du papier monnaie ou du billet de banque à partir de 1719, qui sont une réalité tardive en France et connurent des échecs cinglants, des utilisations très ponctuelles, puisqu'on a toujours ôté le facteur confiance à ce type de monnaie, pourtant essentiel à cet instrument d'échange. Voilà. Je ferme la parenthèse sur la définition de la monnaie, donc monnaie physique qui m'intéresse, et j'en reviens à mon parcours. Alors, l'aventure a vraiment commencé effectivement avec la maîtrise en 1999, lorsque j'ai décidé de travailler sous la direction de Jean-Marc Mourisseau, dont les cours m'avaient sensibilisé à l'histoire moderne, et puis ensuite la licence avançant au monde rural, et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur la circulation monétaire dans les campagnes. L'entreprise était novatrice parce que il semblait bien à Jean-Marc, qui ne connaissait pas l'objet monétaire, qu'il semblait un lien entre la production et la consommation, il faut bien un moyen d'échange, et à moi qui connaissais un peu l'objet monétaire, vous allez voir, les historiens jusque-là refusaient qu'il circule. Hein. D'un côté, il y aurait un objet qui ne circulait pas, puis de l'autre, les historiens, il y a des échanges, mais on ne sait pas avec quel objet. Donc, tout de suite, on a vu qu'il y avait quelque chose à créer. Et l'entreprise, donc, a été effectivement couronnée de succès, puisque j'ai eu la chance que le mémoire de maîtrise soit primé l'année suivante par le prix Jean Bouvier d'histoire économique, hein, délivré par un quotidien libéral d'économie, Les Échos. Mais bon, là aussi, je tiens à rendre hommage à Jean-Marc, parce que sans un directeur de recherche qui suit et fait attention à vos travaux et qui pense à vous pour tel prix ou pour tel colloque, séminaire, intervention, publication, on est un peu noyé dans la masse. Et si Jean-Marc n'avait pas suivi l'actualité de ce prix, il n'avait pas déposé mon mémoire de maîtrise, bon voilà. Alors, vu la réception de ce mémoire, il nous a semblé évident qu'il fallait en tirer parti et poursuivre dans cette entreprise. Poursuivre dans cette entreprise, c'était réaliser une thèse sur la monnaie. Une thèse que j'ai débutée en 2003, soutenue en 2008. Alors, ceux qui ne travaillent pas qu'à leurs travaux de recherche savent effectivement à quel point ça peut être plus long que prévu. 2003 à 2008, bon, 6 ans, parce que quand on est enseignant dans le secondaire, comme j'étais au début, c'est forcément assez long, voire assez difficile. L'ATERA a permis d'accélérer un peu les travaux. Donc, une thèse, 6 ans de recherche, 6 ans pour la réaliser et la soutenir. La définition du sujet de celle-ci est partie, après inventaire, évidemment, des connaissances, à partir des travaux déjà réalisés, d'un triple constat plutôt simple. Le royaume de France était réputé riche, et le roi en tirait, par l'impôt, d'énormes ressources, notamment de ses campagnes. Seules les campagnes pratiquement payent la taille. Royaume de France, énormes ressources, notamment de la Normandie, que la Normandie payait beaucoup d'impôts, qui permettait à cet État royal de financer une politique coûteuse, et notamment sous deux aspects, la guerre et, secondairement, le prestige. Deuxième constat, l'objet monétaire a survécu en nombre, comme en atteste la numismatique. Regardons régulièrement les rapports de fouilles de l'INRAP, pour toutes les périodes. L'objet monétaire est un objet constant. Lisons l'inventaire des trésors des publications archéologiques. L'exemple le plus marquant est peut-être celui pour la seule guerre de Cent Ans, des 50 trésors pointés en Basse-Normandie par Jacqueline Pilet-Lemière. Voilà, une seule période, une seule province, déjà 50 trésors, c'est-à-dire déclarés, étudiés. Je ne parle pas du reste. Et puis, regardons les collections publiques. Il n'y a pas une ville d'importance en Normandie qui n'est pas un médaillé d'exception. Il y a une collection numismatique impressionnante à Caen, il y en a une à Cherbourg, il y en a une à Bayeux, et je passe sur les collections privées. L'objet monétaire est un objet très commun. Hein. On ne rencontre pas tous les jours une arbalète du XVIe siècle, on peut tous les jours toucher une pièce de monnaie du XVIe siècle, pratiquement. Mais troisième constat, les historiens ne font pratiquement aucune place à la monnaie comme moyen d'échange. C'est-à-dire comme ce lien essentiel entre la phase de production et celle de consommation. Les historiens, jusque-là, lui préféraient localement le troc, moyen d'échange forcément courant, forcément facile, et internationalement la lettre de change. On a énormément écrit sur la lettre de change comme moyen d'échange. Sur la monnaie, très peu. C'est-à-dire que jusque-là, les historiens ont étudié des moyens d'échange privés, le troc ou la lettre de change, même très différents sont des moyens d'échange privés, sans jamais s'atteler au moyen d'échange officiel, à celui délivré par l'État, qui est la monnaie. Étonnamment, les historiens acceptent le principe d'une production monétaire. Je vous renvoie par exemple aux travaux incontournables de Spooner, qui datent déjà de 1956. La production monétaire est actée, mais ensuite, ils ne font pas circuler la monnaie. Pire même, ils en évacuent la possibilité en interdisant l'accès au peuple alors que les recettes fiscales ne cessent d'augmenter. C'est-à-dire qu'on a une dichotomie entre d'un côté un royaume riche, des recettes fiscales ne cessant d'augmenter, une politique royale sans cesse plus coûteuse, d'un autre, une production monétaire, et entre deux, pas de circulation. Là, il y a un sentiment, me semblait-il, nous semblait-il, d'une contradiction, d'un chaînon manquant, d'un vide à combler. Pour preuve, quelques propos peut-être de nos devanciers, remontant au plus loin, citons Jean Meuvray dans un de ses articles des Annales de 1971. Et pourtant, Jean Meuvray n'est pas celui qui a été le moins insensible à la circulation monétaire. Le moins sensible, pardon, à la circulation monétaire. Jean Meuvray, en 1971, annonçait, je cite, que « pour satisfaire aux besoins ordinaires, la manipulation d'espèces d'or et même d'argent n'était nullement nécessaire ». Bon. Il faut partir de ce postulat-là, d'après Jean Meuvray. Hein, ça ne souffre pas de discussion. Il n'avance pas d'éléments dans ce sens, mais c'est dit. Et là on le rejoint, mais ça ne veut pas dire pour autant que la monnaie n'existe pas, que les comptabilités chiffrées en livres et deniers ne correspondaient pas toujours à des mouvements effectifs de monnaie. C'est vrai que c'est un problème ruraliste, vous savez bien, auquel nous sommes confrontés. Ces comptabilités en monnaie de compte, à quel échange font-elles réellement référence? Bon. Et surtout, et là c'est plus gênant, dit-il, les espèces monnayées n'étaient considérées que comme une variété particulière de marchandises. Je crois que c'est quelque chose dans lequel on s'est enfermé assez longtemps, c'est-à-dire qu'on a fait de la monnaie une marchandise comme les autres, réfutant en quelque sorte sa circulation comme moyen de paiement. Je crois que cette idée qu'on voit jusqu'au début des années 2000, que la monnaie est une marchandise comme une autre, l'a fait perdre un peu de vue. On peut faire un bond de deux générations, pratiquement, avec Michel Mourinho, le très piquant Michel Mourinho, qui en 2007, est pourtant lui aussi sensible à la circulation monétaire, pouvait écrire, je cite, que la monétarisation ne régna pas véritablement, la monnaie sonnante et trébuchante ne devint qu'au XIXe siècle un instrument d'échange ubiquiste, avec le développement du salariat et le paiement en pièces. XIXe siècle, développement du salariat et paiement en pièces. Pourtant, si on regarde le monde des travailleurs dans les campagnes au XVIIIe siècle, et je me souviens de ce prolétariat agricole qu'on voit dans les plaines d'Île-de-France que tu nous enseignais, il y a bien un salariat agricole, dont on aimerait bien savoir comment il était payé et pourquoi pas peut-être aussi en pièces de monnaie. Michel Mourinho, lui, très clairement, c'est l'industrialisation, le monde ouvrier, le paiement en pièces qui nous font entrer dans l'ère de la monétarisation des échanges. Je passe sur des propos, pour le coup, totalement là, hors course, d'un Marc Périchet qui, au sujet de la généralité de Caen en 2000, disait que la généralité de Caen, justement, n'a connu qu'une économie rurale où le gros des échanges était justiciable du troc. Généralité de Caen au XVIIe et XVIIIe siècle, on troque. Hein, bon. Voilà. Alors, cet évitement du sujet, vous remarquerez que c'est un évitement par sa minimisation, c'est-à-dire qu'on minimise toujours l'objet monétaire, qui vient peut-être, je ne sais pas, de son aridité. Et là encore, je ne vous donne que quelques exemples historiographiques relevant de la circulation monétaire. Mais, j'allais dire presque pire, nombreux sont les historiens qui, sans parler même, sans s'intéresser, sans entrer dans la question de la circulation monétaire, ne connaissent pas l'objet monétaire et pourtant publient à son sujet. Je mets de côté l'ensemble des ouvrages généraux et manuels d'histoire, qu'il s'agisse de ceux à destination du grand public ou des étudiants de l'université, je pense à ceux par exemple d'Yves-Marie Berset ou de quelques autres, où à chaque fois les quelques lignes, voire le paragraphe ou le chapitre sur la monnaie, comportent absolument énormément d'erreurs. J'entre juste là dans quelques articles et ouvrages spécialisés. Michel Perronnet, dans un article pourtant au titre évocateur, « De l'or, splendeur immortelle », écrivait en 1994 que, je cite, « Henri II est le premier roi de France à figurer sur une monnaie ». C'est faux. Le premier roi de France à figurer sur une monnaie, c'est 50 ans plus tôt, c'est Louis XII, au tout début du XVIe siècle. Alors vous allez me dire, quelle importance ça fait? La représentation du portrait royal et son sens politique, le décalé de 50 ans pose peut-être quelques problèmes, en tout cas montre une certaine méconnaissance de l'objet. Dans son tout récent ouvrage, souhaitant pourtant faire le tour de la question histoire de l'argent à l'époque moderne, Marie-Laure Le Guay voit les princes de la Ligue monnayer des pièces de cuivre pour sauver leurs troupes. Jamais les princes de la Ligue ne monnayèrent de pièces de cuivre pour solder leurs troupes, pour deux raisons. D'abord parce que la Ligue fut arrosée avec l'argent espagnol, et ça fait quand même quelques décennies que c'est écrit, et parce que si vous voulez payer des mercenaires allemands capables de vous suivre dans les années 1580 ou 90, évitez de les payer avec des pièces de cuivre. Donc les ateliers monétaires de la Ligue produisant des espèces de cuivre n'ont pas existé. Un peu plus loin, elle fait comme si le louis d'or créé en 1640 avait été demeuré stable de poids et de titre jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. Il a subi des tailles et des mouvements très importants, ne serait-ce que pour le poids, par exemple, il est passé de 6,75 grammes à 7,65 grammes à la fin de l'Ancien Régime, ce qui change légèrement les choses. Ou elle peut encore un peu plus loin vanter une fonte de la vaisselle royale pour la transformer en espèces en 1709. Cette fonte pour fabriquer des espèces n'a jamais eu lieu. Les deux fontes royales que nous connaissons bien datent en fait de 1679 et de 1759. Alors, ces quelques mots résument en fait à eux seuls une double réalité à laquelle l'historien est confronté, me semble-t-il, depuis longtemps. Celle historique de la circulation monétaire et celle historiographique de sa difficile perception. Et une difficile perception rendue d'autant plus difficile qu'elle a été, au mieux évitée, au pire minimisée. C'est ce que Michel Morino appelait, je reprends cette jolie expression, le serpent de mer de l'histoire. Pour lui, la circulation monétaire, c'est le serpent de mer de l'histoire. Donc on ne s'attaque pas à n'importe quel animal. Je m'explique un peu dans les détails. Réalité historique d'abord. La circulation monétaire, c'est une réalité historique. La circulation monétaire, vous le savez tous, pour vous qui pratiquez les sources de la pratique, La circulation monétaire est visible au détour d'une multitude de sources. Pour qui prend la peine de la chercher ? Elle est mise aussi bien en évidence par le hasard, je l'ai dit, de la trouvaille d'une monnaie isolée, par celle d'un trésor conséquent, que par la lecture de documents d'époque, je pense à un inventaire après décès. Je pense à un acte scellant, un acte chez le notaire scellant la vente d'une terre. On la voit dans les inventaires des recettes fiscales. Tous ces documents permettent de la toucher. C'est une réalité. Difficile perception ensuite, parce que malgré son évidence, donc, elle est parfois ignorée, parfois réfutée. Et quand elle est abordée, tout juste, effectivement, est-elle effleurée. On peut peut-être essayer d'expliquer cette méconnaissance, et notamment pour les historiens de la période moderne. En fait, regardons les antiquisants et les médiévistes. Les antiquisants et les médiévistes ont beaucoup moins de problèmes avec la monnaie que les modernistes. Je pense qu'on peut avancer que cela provient de la disponibilité des sources écrites. Les sources écrites sont rares pour l'Antiquité, rares pour le Moyen-Âge, un peu moins rares, mais rares. Et les historiens de ces périodes, vous le savez, sont par essence familiarisés aux objets, et notamment via l'archéologie. Des objets qu'ils considèrent comme sources à part entière, et pas uniquement comme objets d'illustration. La pièce de monnaie est une source à part entière pour l'antiquisant ou pour le médiéviste. Noyé par une masse écrite importante, le moderniste, me semble-t-il, je peux me tromper, mais ne fréquente pas ou très peu les objets. On peut illustrer ce propos que j'avance par un très récent échange de mails dans la liste de diffusion de la MUF. Vous y avez peut-être fait attention dernièrement, l'Association des historiens modernistes de l'Université française, où une éminente collègue était perdue parce qu'elle n'arrivait pas à identifier une plaque de métier. Vous savez, ces petites plaques de métal qui indiquent le nom, l'acteur, et puis que vous pouvez mettre sur des objets très différents que l'on fabriquait. Bon, ça a été le sujet entre plusieurs professeurs d'université aujourd'hui, hein, l'université française aujourd'hui. Bon sang, qu'est-ce que c'est que cette plaque ? C'est-à-dire que tout à coup, un objet apparaissait dans la chaîne des échanges et il a fallu plusieurs échanges pour qu'enfin une plaque d'identité, l'un des objets les plus basiques et plus courants, si vous vous rendez au département des monnaies du cabinet de la Bibliothèque nationale des France, il y a des tiroirs entiers de plaques de métier, une collection extraordinaire de plaques de métier. D'ailleurs, ça pourrait intéresser parmi vous, peut-être ceux qui s'intéressent à l'arpentage ou à ce genre de choses, parce qu'il y a des plaques d'arpenteurs extraordinaires. Pensez-y, c'est un fonds qu'on oublie souvent, le département des monnaies de la Bibliothèque nationale de France. Je reviens à mon sujet. En fait, l'étude des pièces de monnaie, je vous l'ai dit tout à l'heure, la numismatique, et la numismatique en France, elle est maîtrisée pour les périodes anciennes et médiévales. Il existe des cours de numismatique ancienne et médiévale à Paris 1, il existe des cours à l'Université d'Orléans, il existe des cours également à l'EPHE, mais aucun, et il n'y a jamais eu de cours de numismatique pour les périodes modernes, et non plus pour la période contemporaine. Les contemporanistes étant d'ailleurs souvent davantage perdus parce que, entrant dans l'ère de la dématérialisation, ceux-ci ont un rapport avec la monnaie physique jusqu'au début du XXe, parfois un peu déroutant. Pourtant, ce qui est une science auxiliaire de l'histoire, et j'insiste vraiment sur l'appellation science auxiliaire de l'histoire, ceux qui sont... numismates pur et dur, comme les héraldistes ou les sigillographes, détestent qu'on les appelle sciences auxiliaires de l'histoire. Or, c'est bien le sens de mon propos, la numismatique est une science qui permet l'écriture de l'histoire. Et c'est grâce aux apports de l'étude de cet objet qu'on dispose d'une nouvelle source, comme la paléographie est une science auxiliaire de l'histoire, la numismatique en est une à plein d'entières. Donc je revendique ce terme, étant numismate de science auxiliaire de l'histoire, elle est tout à fait nécessaire à son écriture. C'est dans cette optique, par exemple, que j'ai créé, il y a maintenant 5 ans, à l'Université de Lille, un cours de sciences auxiliaires de l'histoire, dont numismatique, pour la période moderne. Et c'est le premier enseignement de cet objet qui était jusqu'à présent réalisé dans une université française. Un champ semblait donc ouvert à la recherche, libre, hein, vierge vraiment, d'où la difficulté d'ailleurs de partir un peu seul, d'étudier seul, sans point d'appui, sans point de comparaison. Ça, c'est quelque chose qui peut être particulièrement déroutant, et je dois vous dire que très souvent ça l'a été, hein. Partez dans une espèce de traque. Il y en a qui partent à la traque au loup. Moi, j'allais traquer la monnaie, c'est-à-dire de la même façon, vous voyez les uns et les autres pointer les victimes, hein, c'est ce que vous faisiez tout à l'heure sur les photos. Donc, de la même façon, dès que je voyais le mot écu, pistole, louis, tac, il s'agissait de compter, il s'agissait de relever à quel endroit, à quel moment, qui, pourquoi, comment, et passer par l'histoire quantitative. Hein, d'où l'avantage aussi de travailler ici au sein du CRHQ, hein, c'était une dimension très importante. L'histoire quantitative. Depuis 10-15 ans, tellement décrié, au moment du changement du nom du laboratoire, d'ailleurs, on avait parlé de ça avait fait débat. Mais une histoire quantitative, bon, serait-ce que pour ceux qui courent après le loup, ô combien importante, enfin, dont on ne pourrait pas se passer pour avoir un socle de données solides, et ensuite pouvoir le traiter et en tirer quelque chose. Donc dans cette traque de la monnaie qui s'est organisée, j'ai d'abord pensé qu'il était naturellement, et je mets naturellement entre guillemets, nécessaire de partir le plus en amont possible, c'est-à-dire de la fabrication de la monnaie, partir en amont en fait depuis l'exploitation des métaux. Où sont les métaux? Où va-t-on chercher les métaux? Comment transforme-t-on ces métaux? Puis ensuite comment fabrique-t-on la monnaie, etc. Jusqu'à sa mise en circulation et à la circulation monétaire, c'est-à-dire comme moyen d'échange. Hein. L'idée que l'histoire de la monnaie serait une espèce de fleuve, hein, qui prendrait sa source dans la mine et puis qui ensuite ferait son chemin, passant par l'atelier monétaire jusqu'à la circulation, et que donc, logiquement, grand 1, je devais étudier la production monétaire, grand 2, la circulation monétaire, et que le grand 2 découlait forcément du grand 1. C'était l'idée de départ. Il s'est avéré que le résultat final n'est pas du tout celui-là. La circulation monétaire ne dépend pas de la production monétaire, en tout cas au sens où nous l'entendions. Ça a donné tout de même le plan de la thèse, le plan d'étude et le plan de la thèse, même si évidemment je corrige ce parcours. La Basse-Normandie aussi, parce que finalement, c'est une région étonnamment délaissée par les historiens en comparaison à la Haute-Normandie. On a étudié le grand commerce maritime en Haute-Normandie, on a étudié les seigneurs et les paysans en Haute-Normandie, je pense au Pays de Caux, etc. Mais la Basse-Normandie, proportionnellement à la Haute, a été tout de même largement délaissée. Et puis c'est une région intéressante, me semble-t-il, à plus d'un titre, parce que c'est un laboratoire qui présente plusieurs facettes. D'abord, on est dans une région réputée riche, peuplée et cultivée. On est dans une région à la fois rurale et ouverte sur la mer. On est dans une région qui, parce qu'elle est proche du ventre de Paris, sert également à alimenter la capitale. Une région qui est dans l'axe atlantique des échanges internationaux. Une région qui est, et parce qu'elle est dans cet axe atlantique, touchée très tôt par la proto-industrialisation. Bref, une région qui présente beaucoup d'aspects intéressants pour une telle étude. Alors, travailler avec quel fonds? Des archives à la fois fragiles et éclatées. D'abord, on est confronté en Basse-Normandie, vous le savez, à la disparition de plusieurs fonds d'archives locaux. Hein. Je vous rappelle que les archives de la Manche ou le notariat de Lisieux ont brûlé intégralement, enfin 99%, à l'été 44. Problème de conservation de certains fonds également. Un extraordinaire fonds sur la monnaie de Caen était endormi aux archives départementales du Calvados, dont il est apparu, quand on a essayé de l'ouvrir, que plusieurs documents tombaient littéralement en poussière. Hein, vous savez, ces documents, vous touchez le registre et tout à coup, ça tombe, ça disparaît. Enfin, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Quand d'autres cotes avaient totalement disparu. Parce que c'était un fonds auquel on n'avait pas touché depuis, justement, qu'on l'avait changé qu'on l'avait protégé avant la Seconde Guerre mondiale et qui n'avait pas été réouvert ensuite. Donc, fonds difficilement accessibles parce que mauvais état. Donc, qui dit mauvais état dit, ça aussi, d'autres ont connu, mauvais état non communicable. Hein, surtout, il a fallu faire beaucoup de démarches, de courriers pour essayer d'obtenir des dérogations, pour numériser, pour enfin obtenir des microfilms. Enfin, l'historien se trouve aussi parfois confronté à ce genre de choses. Et là, je dois dire que sur ce fond-là, on a à peu près tout connu. Hein. Donc, pour les archives locales, vous voyez que ça a pu être parfois très compliqué. Et puis, le poids des archives centrales était très important aussi. Archives centrales qu'il ne faut jamais oublier, jamais délaisser, même si le fonds n'a pas le nom qui nous intéresserait, genre Monde rural dans la généralité de Caen, ou Échange au port d'Honfleur, ou les archives de la Cour des monnaies, du ministère des Affaires étrangères, aujourd'hui le centre du ministère des Finances, pardon, le centre, le KF, à Sévigny-le-Temple depuis 2 ans, donc je sais que c'est pas un lieu facile d'accès, mais les archives du ministère des Finances et donc des anciens ministères des Finances à Sévigny-le-Temple est réellement une mine. On voit très peu de gens s'y rendre, on l'oublie souvent. Vous avez, et je pense, parce qu'il y a des cartons agriculture, il y a des cartons commerce maritime, etc., il y a certainement des mines là-bas qu'il ne faudrait pas oublier. Il y a notamment un fonds Monnaie de Paris qui est exceptionnel et qui, au-delà de la Monnaie de Paris, en fait, traite de toute la monnaie dans le royaume. Tout a été regroupé, donc, il y a 2-3 ans à Sévigny-le-Temple. Il y a guère plus d'un ou deux lecteurs par jour en moyenne depuis l'ouverture de ce lieu. Mais vraiment, n'hésitez pas un jour à aller au moins voir les inventaires parce que vous risqueriez d'y trouver des mines. Je ferme la parenthèse. Donc voilà, définir une région, définir des archives et puis trouver des pôles d'observation. Alors ensuite, une fois qu'on a, vous connaissez le principe, dresser ces inventaires, définir des pôles d'observation, ça s'est passé de la façon suivante. Des bases de notariat, j'allais dire, avec des séries complètes, donc sur 3 siècles. Alors, l'idée, c'était de trouver une base, j'allais dire, ruro-maritime, Isigny, tu sais bien, qui offre un fonds important, rural-bocage, Vire, rural-proto-industriel et ouvert sur la Haute-Normandie et Paris, le pays d'Auge. Bon, voilà. Trouver des notariats, des pôles représentatifs, comparables, etc., pour y dépouiller eh bien, tout ce qu'on pourrait y trouver relatif à la monnaie, actes de vente, dot, contrat de mariage, inventaire après décès, etc., etc. Comment étudie-t-on la monnaie? C'est-à-dire, sur quelle source travaille-t-on? De quelle manière? Et pour quel type de résultat? Bon. En archives, certes, je viens d'en parler un peu, je ne vais pas développer davantage. En archives, c'est à la fois une approche qualitative et un traitement quantitatif. La circulation tient du papier monnaie de l'eau, dans les campagnes en 1720. On a pris des registres de notariat, Livaro, Isigny, je crois que j'avais fait Blangy de Château aussi, et compter combien de fois et pour quel volume et pour quel type d'échange intervenait le billet de banque entre 1719 et sa fin en 1720. Hein, et ça permet concrètement de voir à quelle vitesse il progresse, à quelle vitesse il est entré dans les bourses, à quelle vitesse il est utilisé, parce qu'on verra que très vite le Normand sait se séparer de ce billet qui ne lui dit pas, qui ne lui dit trop rien. Hein. Bon, voilà, il faut faire du quantitatif. Comment étudie-t-on la monnaie avec un autre type de choses aussi qui est la numismatique, c'est-à-dire la monnaie en tant qu'objet, et notamment à travers l'archéologie. Je prends 2 exemples. L'exemple du trésor de Tirpied, pour ceux qui connaissent, on est dans la Manche, hein, vous voyez, j'ai publié dans Trésor monétaire 25 en 2013. Qu'est-ce que nous dit ce trésor ? 453 écus d'argent, datant d'entre 1726 et 1824, trouvés dans la ferme du Sud-Manche la plus basique, qui ressemble vraiment à n'importe quelle autre ferme, enfin, maison dans laquelle on n'aurait jamais pensé trouver ce type de trésor, ça nous renseigne sur la capacité réelle des contractants. On est dans une toute petite fermette, dans une région qui n'est pas réputée extraordinairement riche au milieu, enfin dans la première moitié du 19e siècle, mais concrètement, dans cette ferme, à un moment donné, quelqu'un a réussi à accumuler d'une manière ou d'une autre, pour une raison qui nous échappe, 2500 francs d'époque en pièces d'argent. C'est-à-dire concrètement, il y a 15 kilos de pièces. Donc ça nous renseigne sur les capacités réelles des contractants. Ça nous renseigne également sur la longévité des espèces. La pièce la plus ancienne date de 1726, la plus récente de 1824. On a traversé les âges, on a traversé les régimes, on est sous la première restauration, il circule des écus de l'ancien régime précédent. C'est très important parce que qui dit longévité des espèces dit augmentation de la masse monétaire. On a trop souvent, trop longtemps compté, estimé la masse monétaire en fonction de ce qui était produit à un instant T, c'est-à-dire... sous la première restauration, on produit tant, donc il circule tant. Mais puisque les pièces sont intrinsèquement précieuses, et puisque, et ça, il faut le découvrir, il n'y a pas de politique de refonte, de destruction sans cesse des pièces anciennes, la masse monétaire ne cesse considérablement, en fait, d'augmenter dans l'époque qui nous intéresse. C'en est un témoignage. Ça nous enseigne aussi la position de ces Bas-Normands, en tout cas de ces Manchois, dans d'éventuels trafics de la monnaie, parce qu'on voit très clairement que ces monnaies sont sélectionnées. Celles de 1726 sont dans les plus mauvais états, plus anciennes que l'on puisse trouver, et celles des années 1810-1820. Alors vous allez me dire, ah, ça vient de la circulation, si elles sont très anciennes, évidemment, c'est parce qu'elles ont beaucoup circulé, et les plus récentes moins, donc c'est logique. Non. Avec la Révolution... l'écu royal de 6 livres est passé à 6 francs. Et la nouvelle pièce était une pièce de 5 francs. En fait, au détriment de la nouvelle pièce, c'est-à-dire que l'écu était surévalué. Il aurait dû réellement être établi, justement en fonction du frais et des erreurs de fabrication, à 5 francs 92. Bon, une chose assez complexe. Voir qu'au fin fond des campagnes normandes, on cherche les plus mauvaises monnaies qui soient pour les poser à 6 francs, alors que dans la réalité... peut les acheter, on sait qu'elles valent 5,90, montre la capacité à participer à un trafic. Ce trésor en est vraisemblablement le témoignage. Donc il augmente la possibilité des contractants, il témoigne de l'insertion dans un trafic monétaire, il témoigne également de la longévité des espèces et donc de l'augmentation de la masse monétaire dans ce Sud-Manche qu'on a écrit pendant très longtemps absolument démonétarisé. Typiquement, voilà ce que peut nous apprendre, c'est-à-dire un seul trésor. Mais les trésors, et je voudrais quitter la Normandie, parce que le but, c'est de montrer le parcours de ce que peut apporter aujourd'hui, et à terme, la monnaie. Je prends l'exemple des fouilles du Fort Saint-Sébastien, menées par l'INRAP. Nous sommes dans les Yvelines, hein, à Saint-Germain-en-Laye. C'est un fort de 1670. Extraordinaire, hein, on n'avait jamais vu ça. C'est un fort, c'est un camp militaire, un camp d'entraînement des troupes de Louis XIV qui apprennent ici les arts de la guerre de siège avant d'envahir la Hollande. On avait quelques traces, témoignages, plans, dessins de ce fort lorsque, à l'occasion de la construction de stations d'épuration des eaux, les archéologues sont tombés sur la réalité de ce fort, c'est-à-dire des bastions maçonnés pour s'entraîner à faire la guerre. Tout le monde a été très 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 surpris. Qu'est-ce qu'on apprend ? Alors on y trouve des pièces comme ça, des petites choses très très moches, des liards de cuivre, des douzaines de billons, des monnaies de très très mauvaise et petite qualité. Ça nous renseigne sur l'argent des soldats, mais surtout sur l'argent personnel des soldats, sur l'argent de loisirs, et donc sur les loisirs de soldats. Et non, à solde. Il faut croiser les sources. Hein. J'ai trouvé un document d'époque intéressant qui dit un sac de 20 livres en liard, c'est-à-dire ces monnaies-là, ça vaut 3 deniers, pèse 12 livres, donc il n'est pas praticable de payer avec cette monnaie les troupes. En fait, là aussi, on a imaginé, on ne sait pourquoi, que le soldat était forcément payé en mauvaise monnaie, en petite monnaie. Je faisais une allusion tout à l'heure. Or, on parle là d'un camp d'entraînement de l'armée Louis XIV avec vraisemblablement 10 à 20 000 hommes stationnés. Pour les payer en liard, si on regarde la hauteur de la somme, il faudrait des dizaines de charrettes par jour avec des tonnes et des tonnes, des centaines de tonnes de métal de cuivre. C'est absolument impossible. C'est impossible à mobiliser. Donc cette idée-là, cette chose-là n'existe pas. Et pourtant, dans le camp, on trouve ces pièces. Donc là, évidemment, il y a eu heur. D'un côté, les archéologues qui disent « il y a des pièces, c'est forcément la solde ». De l'autre, les historiens qui disent « voilà, on paye les soldats en mauvaise ». Et pourtant, si on va dans les archives centrales, on voit très clairement, là, c'est un trésorier des guerres qui écrit au contrôleur général en disant « vous serez bien gentil de tout faire pour ne pas nous donner du cuivre, parce qu'on ne peut pas, on ne peut pas le transporter, c'est pas pratique, etc. » En associant les travaux des archéologues, quand on trouve ces pièces dans des cabanes, dans des tentes, près de dés à jouer en os, près de pipes en terre cuite, près des portes du camp, près des endroits de stationnement des marchands ambulants, on voit là qu'on a tout à fait une autre monnaie, une monnaie qui sert à autre chose. C'est la monnaie, l'argent de poche, c'est la monnaie rendue. Les soldats consomment du jeu, ils s'amusent, ils passent le temps en jouant, hein. On n'a pas trouvé de carte, mais on a trouvé des dés. Sans doute, si la carte avait pu... Peut-être que si la carte avait pu passer le temps, on en aurait trouvé. Les pièces de sol, comme ça, c'est d'après quelques témoignages rares littéraires de l'époque, le prix d'une fille. Et on les trouve près des portes du camp. C'est là qu'on les trouve le plus, ces pièces. Près des portes, à la sortie du camp, et pas à l'entrée du camp. Et on sait que marchands ambulants et filles suivaient les armées. Bon, voilà ce que peut nous apprendre la monnaie en archéologie. La monnaie, on l'étudie aussi grâce à la physique. Ça peut sembler un peu rebutant, mais c'est absolument passionnant. Les analyses particulières ou analyses nucléaires nous donnent des renseignements sur le contenu et l'origine du métal précieux. Deux exemples très simples. Quand on étudie trois écus d'or de Louis XI conservés dans des collections publiques de différentes émissions et qu'on détermine de quoi ils sont constitués, d'or, d'argent, de cuivre, leur titre en carat, ça donne tant de millièmes, quel est le titre officiel, qu'est-ce qui leur manque, eh bien pensez que sur trois écus d'or qui ont survécu, il manque de 3 à 4% d'or dans chacune de ces pièces. Et que c'est le taux le plus élevé de manque au XVe siècle, et que Louis XI est pourtant le souverain sur lequel on écrit que définitivement il a restauré la monnaie, hein, très clairement Louis XI a restauré la monnaie, comme énormément de choses, d'accord ? Bah, Louis XI a vraisemblablement le monnayage d'or, par rapport au texte officiel, le plus mauvais du XVe siècle. Même Charles VII s'en sort mieux, et même Charles VIII et Louis XII au temps des guerres d'Italie s'en sortent mieux. Donc là, il y a quelque chose. Écrire sur la restauration d'un certain ordre, et notamment d'un ordre économique et monétaire, financier, économique et monétaire, par Louis XI, et en étudiant réellement sa monnaie, bon, peut-être qu'en étudiant sa monnaie, on pourrait écrire, voir les choses d'une autre façon. Les analyses physiques, en précisant les contenus, donc là, contenus d'argent et d'or, d'argent et de cuivre, mais en regardant d'autres contenus, peuvent aussi nous dire d'où viennent les métaux. Là, il s'agit d'études de pièces d'argent. Tous ces petits carrés, ces petits ronds sont des pièces d'argent qui viennent de différents ateliers monétaires, Bordeaux, La Rochelle, Nantes, Bayonne. Et là, on ne calcule pas l'or, l'argent ou le cuivre, mais IN, l'indium, qui est un métal rare qui nous vient d'Amérique. C'est Emmanuel Leroy-Ladurie hein, et quelques collègues qui avaient fait cette étude. Selon que vous avez plus d'indium, plus votre argent a de chances de venir d'Amérique et précisément du Potosí. Bon, très clairement, avant 1550, l'argent est européen. À partir des années 1570, l'argent est de plus en plus constitué de métal potosien. Voilà ce qu'a permis de montrer, ce qu'ont permis de montrer les analyses physiques d'Emmanuel Leroy Ladurie et ses collègues dans les années 90, alors que des archives nous manquent pour établir ce fait. Alors, pour quel résultat étudier la monnaie physique, à quoi ça sert? Je vous ai donné quelques exemples et tiré de ma thèse, je pourrais vous en donner quelques autres. D'abord, ça sert à déterminer, j'en ai déjà parlé, et je crois qu'on peut insister là-dessus, que la masse monétaire disponible pour les échanges était, me semble-t-il, plus importante que jusqu'à présent considérée en fonction de la seule production monétaire. J'en veux pour exemple notre Normandie du XVIe et de la première moitié du XVIIe siècle. Chez les notaires bas normands, vers 1580, on trouve des monnaies françaises, testons, francs, quart d'écus, et des pièces espagnoles, les réaux. À Caen, dans 23% des paiements, j'ai des réaux. À Isigny, dans 33% des paiements, il y a des réaux. À Courtonne, la ville, en pays d'Auge, en 32% des paiements, il y a des réaux. Pour les trois études, ça fait une moyenne de 30%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on établit, comme l'a fait Spooner, une circulation monétaire uniquement tributaire de la production monétaire des lieux, il me semble qu'on oublie 30% de masse métallique, la monnaie espagnole qui circule à l'époque. C'est-à-dire que si on dit, voilà, ici, on a produit 1 million de livres et il ne circule qu'un million de livres, non, il circule peut-être, potentiellement, 1 300 000 livres. Vous comprenez? Pas parce que la monnaie n'a pas été transformée qu'il faut l'oublier, qu'il faut l'évacuer. Je crois que c'est encore plus frappant en 1639 dans la recette générale. La recette générale, je parle des impôts. Les impôts de la généralité de Caen. Ne regardons que les pièces d'or. Les pièces d'or en 1639, pièces d'or de France pour payer l'impôt à Caen en 1639, 14%. Pièces d'or espagnoles, 70%. Dans la recette fiscale de la ville de Caen en 1639, il n'y a que 14% de pièces d'or françaises. Le reste, ce sont des pièces d'or étrangères. 85% de pièces d'or étrangères, dont 70% de pièces espagnoles. Ah. Donc, déterminer la masse monétaire en fonction de la production nationale, c'est absolument aberrant. Et il faut, je crois, totalement revoir notre estimation du stock monétaire et donc revoir considérablement la part des échanges monétarisés. Enfin, c'est une de mes hypothèses. Ensuite, autre enseignement important, le cours des monnaies n'était pas défini que par les autorités, mais également par les utilisateurs de la monnaie. Les cours réels entraînent, précèdent les réajustements des cours officiels. C'est typique en Normandie. En Normandie, on fixe des cours plus élevés que le cours réel quand la monnaie est plus rare. Et c'est sur ces cours que le roi de France finit par s'aligner. Ce qui veut dire que quand on a une certaine somme en monnaie de compte et qu'on veut savoir à quoi ça correspond, si on veut parler d'un échange en monnaie, il faut être vigilant à cette dimension assez complexe. Il ne faut pas oublier. Savoir combien vaut réellement la monnaie à l'endroit où on est. Eh bien, ça ne vaut pas forcément ce qui est inscrit dans ce qu'inscrit la législation royale. On a quand même des écarts impressionnants. Hein. Pour la seule année 1579, ça je l'ai trouvé à Isigny, hein. 116 sols pour la pistole, mais chez les marchands d'Isigny, 129 sols, on a quand même un écart sacrément conséquent. 10%, c'est conséquent. Ensuite, la circulation monétaire, qu'on considère souvent limitée à cause des disettes monétaires qui seraient notamment dues à la thésaurisation, eh bien, il apparaît que, au contraire, à certaines époques, et là je donne l'exemple d'un fonctionnement dans la première moitié du XVIIe siècle, au contraire, on fasse tout pour au maximum, le plus possible, faciliter la circulation de la monnaie. Hein. Loin de thésaurisation stérile, on cherche à faire circuler la monnaie. Là, l'exemple, c'est celui du système des rescriptions données sur les trésoreries de l'État. tirer sur les trésoreries de l'État. Voilà comment des marchands parisiens, acheteurs, donnent leur lettre de change au bureau de finance, qui leur donne en échange des rescriptions. Ces rescriptions, on peut les déposer auprès des receveurs des impositions. Les receveurs des impositions touchent de la monnaie, donc peuvent donner de la monnaie aux marchands. Des marchands qui, désormais, peuvent acheter en monnaie. On peut échanger les marchandises en monnaie, ce qui permet de disposer d'argent pour le salariat, le fameux salariat qui est payé en argent et qui, de toute façon, reverse de l'impôt en monnaie qui sera réinséré dans le système. Une circulation rapide, c'est-à-dire sans doute plus proche de l'expression de Bois-Guilbert qui disait en 1695 « L'écu fait 100 mains en un jour », il est possible, oui, qu'on doive aussi reconsidérer l'extraordinaire mouvement de la monnaie et la rapidité à laquelle elle circule. Étudier la monnaie, pourquoi ? Pour apprendre aussi, par exemple, que les Normands aussi ont commercé avec l'Amérique espagnole pendant la guerre de succession d'Espagne et sous la Régence, à l'époque de Philippe V, et ramener des métaux et utiliser ces métaux pour alimenter leur province. Vous connaissez sans doute le magnifique ouvrage d'André l'Espagnol sur ces messieurs de Saint-Malo et ces messieurs de Saint-Malo qui, à l'époque de la guerre de succession d'Espagne et de la Régence, chargent leurs bateaux de produits, notamment bretons, pour ramener du métal en Bretagne. Les Normands dans cet ouvrage sont oubliés, comme dans beaucoup d'autres. Et bien, en regardant les comptes de la monnaie de Caen, et quand on voit ce qui arrive comme lingot américain et quelle part ça a dans la production, et bien, en tirant le fil, on a vu que les marchands normands prenaient des parts sur les bateaux de Saint-Malo. Il y avait des parts normandes sur les bateaux de Saint-Malo, et que ça a alimenté, par exemple, en métal la Normandie. L'une des choses plus intéressante aussi qu'a pu nous enseigner l'étude de la monnaie, c'est la question du désendettement paysan grâce au système de l'eau, ou devrais-je dire grâce à l'échec du système de l'eau. Quand le papier monnaie a perdu sa valeur, quand le système s'est totalement effondré, à l'automne 1720, le public, les particuliers, ont disposé de quelques jours pour utiliser leur monnaie avant que leur monnaie papier ne valle plus rien. Et nos ruraux normands, puisque je suis à Isigny, à Livaro et à Blangy, ont utilisé ce papier monnaie surtout pour se désendetter, surtout pour racheter des rentes. Il me paraît, que la croissance du XVIIIe siècle comme on la connaît n'aurait peut-être pas été comme on la connaît s'il n'y avait pas eu ce bol d'air du début du XVIIIe. On entre au début du XVIIIe, la paysannerie française est surendettée, elle est dans un état, elle est quand même fracassée par les années de misère du règne de Louis XIV, et on a un processus, une phase de désendettement en 1720 qui est extraordinaire et qui permet encore à une, deux, voire trois générations de tenir. L'histoire a été écrite par les rentiers ou par les admirateurs ou par ceux qui ont étudié les rentiers. C'est-à-dire que l'histoire du système de l'eau, si vous lisez les historiens du système de l'eau, c'est un échec parce que la rente s'effondre. Les communautés religieuses ont perdu énormément d'argent, les rentiers ont perdu de l'argent. Ils ont perdu de l'argent parce que ceux envers qui ils étaient créditeurs se sont désendettés en monnaie de singe. C'est-à-dire que si la rente et les rentiers se sont effondrés, le monde des débiteurs, lui, s'est allégé. Il est étonnant que l'histoire de cet épisode n'ait pas encore été écrite sous cet angle-là. On peut aussi, toujours grâce à la physique, reconsidérer même l'origine des métaux et la nature des réseaux commerciaux. Un louis d'or frappé à Caen en 1726, c'est assez joli. Au XVIIIe siècle, alors c'est là que plus les années passent et plus les études physiques permettent de pousser les choses, au XVIIIe siècle, il est établi que l'or viendrait du Brésil. Et vous connaissez les travaux de Jean-Noël Barandon, etc., sur l'or du Brésil, la croissance et l'or du Brésil au XVIIIe siècle. L'or du Brésil est traçable notamment par l'indium. Et le problème, c'est que quand on regarde les sources de la monnaie de Caen, par exemple, au XVIIIe siècle, on ne voit pas qu'arrive forcément de l'ordre du Brésil. Alors vous allez me dire, si ce n'est pas de l'ordre du Brésil, mais de l'or portugais. L'or portugais est forcément brésilien. On ne voit pas non plus d'or portugais. Alors, qui commerce avec le Portugal? Qui pourrait récupérer cet or? Les Anglais. On ne voit pas non plus que Caen commerce particulièrement avec les Anglais au XVIIIe siècle. Pourtant, Caen frappe de l'or. De l'or qui vient du Brésil. Eh bien, avec un autre système d'études que l'on vient de mettre en place, qui est juste une observation à la binoculaire, on est de l'ordre du micron, on s'est rendu compte qu'il y avait, parce qu'elle n'avait pas fondu, puisqu'il est ductible à une chaleur beaucoup plus élevée, des inclusions de platine dans l'or de la monnaie de Caen. Mais qui dit platine ne dit pas Brésil. L'or brésilien ne possède pas de platine. Le platine est typique de l'or alluvionnaire de Colombie. Ce qui veut dire que l'or au XVIIIe, dans notre espace ouest, proviendrait toujours de Colombie, c'est-à-dire de l'espace espagnol, ce qui semble beaucoup plus logique avec la suite, avec nos échanges. Là, voilà comment l'étude de la monnaie peut remettre en cause des schémas, des échanges. Cette affirmation reprise depuis la fin des années 90 que l'or du XVIIIe est du Brésil, que le schéma a changé, que l'Angleterre a pris le pas, vraisemblablement, le schéma inscrit depuis le XVIe siècle d'échanges entre le Grand Ouest et les Espagnols existe toujours au XVIIIe. L'étude physique de la monnaie pourrait le prouver. Puis l'étude de la monnaie et donc du faux monnayage, c'est également une étude de la justice et des mentalités. Une étude de la justice et des mentalités parce que quand on regarde une carte de l'origine des faux louis déposés au change de la monnaie de Caen dans les années 1720, eh bien, on voit très clairement que la Basse-Normandie est peut-être plus sensible au faux monnayage du côté de Perrier et de Villedieu que d'Honfleur et de Falaise. Alors, Perrier et les environs, en face, on a Jersey, Guernesey. Villedieu, on a des travailleurs de métaux qui peut-être ne travaillent-ils pas que le cuivre pour en faire des casseroles, mais peut-être pour en faire autre chose. On voit se dessiner peut-être une carte de la criminalité grâce à l'étude de la monnaie tout à fait intéressante. Bon, très clairement, Jersey, Perrier, voilà, c'est l'axe Jersey-Guernesey, c'est l'axe de la fraude et de la contrebande au XVIIIe. Et c'est ici qu'on voit arriver la fausse monnaie. Un taux de fausse monnaie important à Villedieu, pays du travail du métal. Bon, vraisemblablement, on a là aussi des éléments intéressants. Alors, je pourrais y passer encore des heures et tenter de vous convaincre sur tout ce que peut apporter l'histoire de la monnaie, l'étude de la monnaie à l'historien. Il ne faudrait pas oublier le domaine, j'allais dire, du sensible, cher à Alain Corbin, que vous allez entendre, je crois, la prochaine fois. C'est la dimension de l'argent tabou, de l'argent de mariage, de l'argent des jeux, de l'argent des dons, etc. Y a énormément d'arcs, de flèches, de cordes, pardon, à l'arc de l'étude monétaire dans énormément de domaines. Et j'espère, avec ces quelques exemples issus de mes travaux personnels, vous avoir montré ou même carrément prouvé à quel point ne pas ignorer l'objet monétaire pouvait vous offrir des pistes intéressantes. Partant d'une petite thèse sur la Basse-Normandie du XVe au XVIIIe siècle, un compte-rendu qui sort là dit « Oui, finalement, ça reste une monographie régionale. » Bah, tant pis, je ne suis pas mécontent d'avoir fait une monographie régionale. Ne soyez pas mécontents si vous faites des monographies régionales, parce que vous voyez où peuvent vous emmener dans des monographies régionales. Ça a permis très clairement de mettre à jour et de remonter bien plus loin en Espagne et jusqu'en Amérique espagnole. Et c'est parce que en pays d'Auge, l'année de la maîtrise, vous voyez circuler autant de réaux et de pistoles espagnoles, que j'ai décidé de remonter le fil et qu'aujourd'hui, en 2015, publiant sur la monnaie en Flandre et dans les territoires espagnols, remontant sur les origines du Potosí, on a pu établir une carte plus précise et qui tendra à être précisée du grand dépouillement de l'Espagne en métaux pour alimenter toute l'Europe. C'est aussi peut-être aussi grâce à de tels travaux qu'on montrera que, grâce peut-être à des analyses métalliques, à des analyses physiques, qu'avant les Portugais, les Normands ont peut-être mis le pied en Afrique, parce qu'il semblerait que l'or guinéen n'ait pas avant tout touché le Portugal, et peut-être 75 ans plus tôt, la Normandie. Et ça, on pourra le montrer en croisant des analyses physiques de l'or, du contenu de l'or, aux sources alimentaires. Si l'étude de la monnaie permet, imaginez, de faire dire à prouver à notre collègue que 75 ans avant, effectivement, les Portugais, les Normands étaient en Afrique, imaginez le bouleversement pour l'écriture de l'histoire. Hein, si on fait la même chose aux Espagnols et colons, voilà ce que peut permettre l'étude de la monnaie. Parce que concrètement, en analysant le contenu de l'or, la traçabilité d'or, on peut dire d'où vient l'or. Voilà. Je vous remercie.